Alors, Vladimir Poutine a obtenu un mandat pour 6 ans, avec un taux de participation un peu en bas du 70%. Mais un appui populaire très élevé de 76%.
Ouais, comme tu le dis, il y avait quelque chose d'un petit peu ridicule. C'était une farce. Il n'y a personne qui s'attendait à un autre résultat qu'à une victoire. Mais c'est pas ça qui était intéressant, à mon sens, parce que c'était... Puis, de toute façon, c'est assez dramatique parce que il y avait très peu d'opposants sérieux. Les opposants qui étaient là étaient visiblement des figurants. Puis ceux qui auraient pu être sérieux, soit qui ont été assassinés. En 2015, il y en a un qui a été assassiné. Puis l'autre a été empêché de se présenter.
C'est ça, le dernier qui était dans la course, il a sauté en cours de campagne parce que le Kremlin a découvert une faute. Une fraude.
Imagine, une fraude découverte par le Kremlin. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette élection-là, c'est que quand même, c'est assez inhabituel. Ça va être son 4e mandat comme président et il aura fait un mandat comme premier ministre. Puis il y avait des articles bien intéressants dans le Figaro là-dessus. Parce que ce qu'on voit avec Poutine, c'est qu'il a changé au fil des mandats. Et quand il a changé à la fois pour des raisons de politique interne, d'économie interne, de pouvoir interne, et ça a procuré des changements extrêmement importants au niveau de la politique et des relations avec la Russie et le reste du monde. Puis ça commence vers la... Je ne veux pas faire tout ce que j'ai lu, mais c'est quand même... Si les gens veulent aller voir ça, c'est bien intéressant. Parce que dans les années 2000, c'était au moment où il est arrivé, où il a pris le pouvoir, lui avait été directeur de l'équivalent du FBI ou de la CIA, je ne sais pas, c'est le FSB, service de renseignement secret russe. Quand il est arrivé, il représentait comme une sorte d'espoir pour la Russie parce que la Russie était très désorganisée. Puis lui a dit, ben moi, je vais mettre les oligarques à ma main, ceux qui sont riches et qui mènent l'État et qui l'exploitent. Et puis, il a été appuyé par plein de gens des ministères puis de ses services internes. Ça a été ses premiers 4 ans. Les deuxièmes 4 ans, ça a été... et là, c'était une politique assez ouverte envers l'Occident. Je lisais qu'il y avait des tu sais, qui a permis, par exemple, l'établissement de bases militaires un peu partout en Orient. Bref, il y avait une ouverture. Ensuite, 2004-2008, là, il y a eu la crise économique. Et pendant de 2000 à 2004, ça allait bien. Il y avait beaucoup de ventes de pétrole, de gaz un peu partout en Europe. Donc, il y avait une économie qui a repris du corps. 2004-2008, ça va relativement bien jusqu'à la crise de 2008. Et c'est là qu'il va devenir, il va échanger avec Medvedev la présidence pour devenir premier ministre.
Parce qu'il n'avait pas le choix.
Il ne pouvait pas se présenter 3 fois.
Mario.
Non, mais ça, c'était ça. C'est un bel exemple. C'est un peu une comédie, mais en même temps, ça démontre l'ampleur de sa puissance dans le pays. Quand, pour respecter la Constitution, parce qu'il ne pouvait pas faire plus que 2 mandats de suite, il a interverti. Là. Il a nommé un pion qui était un peu comme son numéro 2. Tiens, toi, tu vas prendre la présidence, puis moi, je vais être, dans le fond, je vais être ton premier ministre, je vais être ton président du gouvernement, je vais être ton premier ministre, mais je vais... Tu sais, dans le fond, c'est lui qui menait pareil. Et il a profité de ce mandat de Medvedev pour faire changer la durée des mandats présidentiels de 4 ans à 6 ans pour que, tu sais, Medvedev s'est pas représenté, là, 4 ans après, lui a sacré son camp. Puis c'est Poutine, comme prévu, c'est Poutine, il était plus dans les 2 mandats consécutifs, donc il pouvait revenir. Puis il est revenu, puis il était correct pour 2 mandats de 6 ans. Il est rendu en 2024 parce qu'il a été réélu hier, donc 6 ans, ça le mène en 2024. Puis hier, il a déjà ouvert la possibilité avec les journalistes de changer la Constitution pour enlever cette règle des 2 mandats consécutifs parce qu'il est déjà rendu, lui, à penser à comment il va pouvoir rester après 2024. Est-ce qu'on est encore en démocratie en Russie? Là, c'est ça la question, là, avec des oppos.
C'est sûr qu'il veut redevenir le tsar, mais c'est basé, par exemple, sur toute cette historique-là. C'est pour ça que je parlais de l'historique, parce que ce qui a réussi, il y a eu la Géorgie, il y a eu l'Ukraine, il y a eu la Crimée. C'est-à-dire qu'il a redonné à la Russie à la fois une sorte de fierté en son économie, puis le grand rêve de la grande Russie, c'est-à-dire revenir à ce qui a été détruit au moment où l'URSS a été démembré. La Russie était dans une mauvaise situation et là, il fait renaître. Et dans ce grand rêve-là, bien évidemment, ce dont on se souvient, c'est de l'époque tsariste. C'était une époque épouvantable, mais c'est mythologique.
Mais c'est mis en valeur. Moi, je suis allé il y a quoi, 3 ans, là, Moscou-Saint-Pétersbourg. Et puis, on avait dans les deux villes un guide francophone. Et tu sens que après la crise économique, après la déchéance de Boris Yeltsin, la famille, l'État, le nationalisme, la grandeur de l'époque des tsars.
La fierté retrouvée.
Oui.
C'est ça un peu
Et si on déteste Poutine, c'est qu'il a donc raison de faire ce qu'il fait. Il y avait un reportage dans le Nouvel Observateur sur des jeunes Cosaques qui sont pris à l'âge de 10 ans ils conforment pour devenir la future garde d'élite.
La garde rapprochée du tsar.
Ben, en tout cas, on a ramené la notion de cosaque avec les uniformes. Ce que je veux dire, c'est que ils carburent au nationalisme russe et en disant finalement, ben on a démantelé notre pays. Mais on revient aux valeurs traditionnelles de la Russie.
Et ça veut dire, par rapport à l'Occident...
Les jeunes trippent sur Poutine.
Ben oui, puis ils considèrent que même s'il y a des défauts, ils représentent la force.
Ben, l'économie
est
meilleure.
Et quand ils envoient promener l'Occident, ce qui se multiplie, puis ça s'est multiplié, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Syrie, surtout. Et là, tu sens bien qu'avec l'histoire de Londres et de Washington, qui est dans un affrontement qu'on croyait disparu de l'histoire, qui est entre la Russie puis le monde occidental.
Mais dans lequel il joue un rôle inquiétant. Puis moi, ce qui me frappe quand même, c'est de voir... bon, lui, c'est un leader extrêmement fort. Puis c'est de voir de l'autre côté, tu sais, l'autre puissance, puis celle qui est plus proche de nos... en théorie, plus proche de nos valeurs libérales et démocratiques, les États-Unis, aussi affaiblis sous le leadership de Trump, au point de penser que les Russes ont pu jouer un rôle pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler l'élection aux États-Unis, puis qu'un bon nombre d'Américains n'ont même pas l'air à trouver ça si grave, là, parce que, bon, tu sais, Trump leur dit que c'est des fake news. Moi, ça me fascine. Moi, si j'étais Américain, là, je capoterais là-dessus, là, l'ingérence ou la potentielle ingérence russe dans les affaires du pays. Mais non, ça semble, du côté des Américains, là, on semble avoir avalé ça, ou on semble nier ça d'une certaine façon, parce que, bon, moi personnellement, je considère, ben, du point de vue des Russes, probablement qu'on peut dire, notre président, là, c'est ramener le pays dans un rôle de partenaire ou de joueur incontournable, tu sais, quelqu'un dont on doit tenir compte, on peut plus se moquer de la Russie, on doit dorénavant en tenir compte dans l'échiquier mondial. Mais en vertu de quelle valeur, tu sais, je sais pas si vous avez vu les images, j'ai toujours à me fier à ça, mais tu sais, il y a des images, il en circule vraiment beaucoup, là, d'observateurs électoraux qui montrent des bureaux de vote où le président d'élection locale, le président du gestionnaire du bureau de vote remplit la boîte avant que ça ouvre, là.
Oui, oui, oui. Bon, ça nous rappelle certaines pratiques du temps de Duplessis ici. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que le nationalisme, à la fois aux États-Unis puis en Russie, a repris du poil de la bête avec des expressions extrêmement différentes. Ouais. Extrêmement différentes. Juste une citation pour finir de Poutine. Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. Celui qui souhaite sa restauration n'a pas de tête.
Oh.
C'est assez beau, hein? C'est ambigu en diable, parce que aimer la Russie telle qu'elle a été, mais n'imaginez pas que celle que je suis en train de faire sera exactement comme celle-là. C'est très ambigu.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain, 8h54.